l'humanité entière aime Radio Campus Orléans. Dans la mesure où elle ne l'entend pas.
Radio Campus.
Ne m'abandonnez pas, je vous en supplie.
88.3. N'oubliez pas que c'est...
USS 117. USS 117, le magazine de l'économie sociale et solidaire en région Centre-Val-de-Loire. Ce programme vous est proposé par la Crescente en partenariat avec les radios associatives régionales.
Bonjour et bienvenue dans ESS 117 sur Radio Campus Orléans. Aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement à la mobilité durable et particulièrement également à la transition écologique et énergétique. Nous accueillons Édouard de Sainte-Maresville. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission transition écologique et énergétique pour la Crescente, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Et puis Philippe Bécoulet, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à l'association Présence 45 Pays Fort. Et puis c'est une association loi 1901. Et puis vous avez développé un service qui s'appelle MobiDream.
C'est exact.
Alors, quand on parle en effet de mobilité, hein, on se réfère à la loi d'orientation des mobilités hein, qui a été publiée au JO le 26 décembre 2019. Alors cette loi, elle transforme en profondeur la politique des mobilités avec un objectif simple, des transports du quotidien à la fois faciles, peu coûteux et plus propres. Cette loi portait des investissements sans précédent, 13,4 milliards d'euros sur la période 2017-2022, avec une priorité donnée au transport du quotidien. C'était aussi des solutions nouvelles pour se déplacer plus facilement et également une volonté de tirer parti de la révolution numérique pour proposer de nouveaux services aux usagers. Enfin et surtout des transports plus propres avec notamment l'inscription dans la loi de la fin des ventes de voitures à énergie fossile carbonée d'ici 2040. Le déploiement de la recharge électrique ou encore le développement des zones à faibles émissions. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? On sait bien que la transition ne se fera pas en 5 ans, mais quand même, en région centre, ce sont encore 60% des personnes qui prennent leur voiture pour faire des trajets de moins de 2 km. Selon une enquête de l'INSEE, un usage persistant de la voiture en Centre-Val-de-Loire pour aller travailler, qui date de 2021. Alors l'ESS, l'économie sociale et solidaire, est identifiée comme porteuse d'innovation sociale et de progrès. Ainsi, il va de soi pour les structures de l'ESS de se mobiliser pour apporter du changement. Et la transition énergétique et l'égalité sociale, ce sont les deux défis de l'ESS pour lesquels les structures se mobilisent ensemble dans la stratégie ESS 2025. Alors Édouard de Sainte-Maresville, vous êtes chargé de mission transition écologique et énergétique pour la Crescente. Alors pour répondre à ce défi de la transition écologique et énergétique, les structures de l'ESS, elles se fondent en fait sur des constats en fait et des urgences. Quelles sont-elles en fait?
Oui, alors c'est pas forcément une spécificité des acteurs de l'ESS que de dénoncer ou de, en tout cas de mettre en évidence le fait que les limites planétaires ont largement été dépassées. Là où il y a un enjeu aussi pour l'ESS, c'est de montrer qu'il y a également ce qu'on va appeler un plancher social et donc un enjeu à concilier à la fois les enjeux environnementaux et puis d'égalité. Et de ne pas laisser s'accroître les inégalités du fait de cette transition écologique. Donc c'est pour ça que nous, on parle de transition écologique et sociale, pour associer absolument ces deux enjeux.
Et vous organisez donc un forum le 9 novembre au MOB. C'est la deuxième édition de ce forum. Et donc, on pourra, en fait, grâce à ce genre de forum, en fait, justement, peut-être évaluer la place des entreprises de l'ESS dans cette transition et peut-être aussi, en fait, aider les structures ESS à établir des plans pour la transition énergétique de leur entreprise.
Oui, alors tout à fait. Effectivement, la CRES se mobilise sur le sujet de la mobilité durable. Alors d'une part, effectivement, parce que finalement, on fait le constat que les acteurs de l'ESS ne sont pas nécessairement exemplaires eux-mêmes sur ce sujet-là. On peut prendre différents exemples, qu'on soit une association sportive ou culturel, on organise un festival, etc. Bon, le festival, par exemple, n'a pas toujours lieu en plein centre-ville avec la possibilité de mobiliser des bus facilement. Donc voilà, cette question de la mobilité, elle concerne aussi les acteurs de l'ESS. On n'est pas toujours exemplaires. Et donc, il faut chercher nous-mêmes à accompagner la transition de ces acteurs. Et par ailleurs, au travers de ce forum, on cherche aussi à mettre en valeur les solutions qui sont portées par d'autres acteurs de l'ESS. Donc voilà, je pourrais y revenir, mais du coup, on a à la fois des structures qui ont un enjeu de transition pour elles-mêmes et un enjeu de mettre en valeur des acteurs comme Présence 45 qui sont porteurs de solutions et qui nous semblent importants de porter à la connaissance des collectivités et peut-être aussi d'autres acteurs de l'ESS qui, du coup, pourraient mobiliser des solutions portées par des camarades.
Alors, on le sait, la mobilité, ça fait partie, en effet, des efforts, en fait, qu'on doit faire pour cette transition écologique, réduire, en effet, notre impact, notre empreinte carbone et dynamiser également en fait les territoires, faire en sorte en fait que il n'y ait pas de territoire qui soit trop isolé en fait de l'accès à la mobilité.
Voilà ce que tu évoques, ça illustre bien en quoi est-ce que la question de la mobilité est importante dans le cadre de la transition écologique. C'est à la fois finalement un des par exemple principaux émetteurs de gaz à effet de serre. C'est au niveau français, c'est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre, c'est la mobilité, c'est les transports. Et en même temps, un enjeu social très fort, parce que, on l'a vu avec les gilets jaunes, si on prend des mesures qui ne sont pas égalitaires, forcément, il y a des levées de boucliers, il y a des gens qui vont s'opposer. Et donc voilà, il est impératif de, encore une fois, coupler la question sociale avec la question environnementale. Et donc l'inégalité entre les territoires, comme tu l'as dit, elle fait partie du sujet, quoi.
Et puis c'est aussi se positionner face à la transition numérique, en fait, parce que souvent quand on est loin de l'accès à la mobilité, quand on est isolé dans un territoire isolé, on va peut-être davantage se servir des outils numériques, mais au détriment en fait du lien social. Donc tout ça est lié, tout ça est très imbriqué. Et en effet, cette transition, elle est triple, on va dire. Elle est écologique, énergétique, sociale, et elle est même quadruple puisqu'elle est numérique également en fait. Alors, c'est ce que vous allez, ce dont vous allez débattre pendant ce forum. Vous proposez plusieurs choses dans ce forum. Ce forum, il aura lieu le 9 novembre au MOB. C'est à la fois diminuer son impact environnemental, mais en prenant compte, bien sûr, de la question de la justice sociale pour améliorer concrètement les déplacements au quotidien pour tous les citoyens et dans tous les territoires grâce à des transports plus faciles, moins coûteux et plus propres. Donc on le rappelle, ça c'est notre fameuse loi mobilité. Et ce forum, en fait, il va nous permettre peut-être d'apporter des réponses aux questions que se posent en fait les acteurs de l'ESS et les collectivités territoriales pour faire bouger autrement à la fois les habitants du territoire, mais également en fait tous les services en fait qui vont organiser la vie à la fois des employés, des travailleurs, mais également des usagers en fait des services. Alors vous avez en effet plusieurs objectifs à ce forum, hein. Il faut le dire, identifier les dispositifs d'accompagnement en fait possibles pour les acteurs de l'ESS, sensibiliser aux enjeux qui sont liés à la mobilité, en particulier concernant l'environnement et qui s'adressent plus particulièrement au cas de la région Centre-Val de Loire. Alors avec les participants, vous allez également chercher à avoir leurs témoignages, en fait, à avoir des retours peut-être par rapport à la mise en œuvre de cette loi. D'ailleurs, vous pouvez nous en parler, Monsieur Bécoulet, en fait, de l'association Présence 45. Vous attendez quoi de ce forum ?
Alors, déjà, je suis ravi de pouvoir participer à ce forum. Premièrement, pour faire connaître l'association pour laquelle que je représente, qui s'appelle donc Présence 45 Pays Forts, qui est installée donc au sud du département du Loiret, exactement à Pierrefitte-Esbois. Donc, nous sommes en milieu vraiment rural et relativement isolé, éloigné des grandes agglomérations. L'association a été créée en 2012. Et après quelques années, donc avec un objectif qui était dans l'entraide locale, qui est l'entraide locale, nous avons constaté que pour se déplacer, les gens faisaient appel à nous. Donc qui avec un véhicule, qui avec un petit camion, pouvait rendre des services pour éviter justement que les gens se trouvent isolés. Et donc, au bout de quelques temps, l'idée est venue de mettre en place, d'étudier la possibilité d'installer des véhicules qui seraient accessibles pour ce public qui souvent est financièrement fragile, et donc pouvoir se déplacer plus aisément, de manière beaucoup plus autonome, et sans toujours être obligé de, parce que moralement, faire la démarche de demander de l'aide en permanence pour des déplacements qui sont des fois de quelques kilomètres, c'est pas évident. Donc voilà, nous avons travaillé donc avec l'incubateur d'innovation sociale Alterincub qui se trouve à Orléans. Pendant 2 ans, on a préparé donc ce projet, et donc l'aboutissement a été de commencer à mettre en service des petits véhicules qui sont électriques, qui sont limités en autonomie et en vitesse, mais qui permettent aux gens de se rendre à un rendez-vous médical, chez le médecin, donc peut-être chez des amis, faire des courses, etc., aller à la pharmacie, voilà.
Alors en quoi elle est innovante socialement, votre... Alors au début c'était une start-up en fait, mais vous êtes resté une association avec un projet de service.
Voilà, donc l'idée c'était donc de développer bien sûr cette solution sur des territoires, mais la forme start-up est compliquée parce qu'en fait, il faut faire appel à des investisseurs. Et les investisseurs, quand il s'agit d'injecter de l'argent dans du matériel, dans des structures comme une start-up, sont très frileux, en fait. L'association nous a permis d'intégrer ce projet avec comme objectif, en fait, de faire appel aux collectivités pour qu'elles participent au financement, à l'amortissement du véhicule, essentiellement, grâce à, on va dire, un loyer minimum pour la mise à disposition du véhicule dans la commune.
Voilà, ce n'est pas un service qui est destiné directement aux usagers. On pense, par exemple... à une famille monoparentale pour aller d'un endroit à un autre, en effet, les rendez-vous médicaux, etc. Ou bien vous le disiez hein, tout à l'heure, hein, ce sont des voitures sans permis. Alors, ça permet aussi aux plus jeunes peut-être de bouger plus facilement, et également peut-être aux personnes plus âgées, en fait, d'en bénéficier aussi et de lutter contre l'isolement.
Voilà, dans l'idéal, le petit véhicule qui se trouve à disposition des usagers peut être utilisé dès l'âge de 16 ans. Donc, dans ce cas, il faut quand même un permis, puisqu'en fait, le véhicule dit sans permis n'est pas un véhicule sans permis. Il faut avoir le brevet de sécurité routière validé par un moniteur d'auto-école qui va juger si vous êtes capable de vous positionner sur la route correctement, de respecter les règles de base, stop, feu rouge, priorité. Voilà. Donc, dès l'instant où vous avez cette capacité, vous avez ce qu'on appelle un permis AM, donc pour tout petit véhicule motorisé, puisque le véhicule qu'on propose, c'est la Citroën Ami, c'est un quadricycle léger, donc c'est assimilé à un scooter, un véhicule très léger, mais il faut que vous passiez la capacité de le conduire. Donc, ce n'est pas le même permis pour un 2 roues, c'est un permis spécifique pour 4 roues électriques.
Ok, et du coup, ça n'est pas directement un service qui est comment dire, prise en charge par les usagers.
Voilà, j'ai pas répondu à la question.
Comment dire, il faut aussi que la flotte, elle soit déployée sur la collectivité. En fait.
Voilà, voilà. Donc, pour avoir un accès possible à un tarif solidaire, c'est-à-dire des sommes très modiques pour utiliser le véhicule, on demande à la collectivité de couvrir une partie de la charge financière de cette solution. Donc, il n'y a pas de secret, on est à une dizaine d'euros net par jour pour que le véhicule soit positionné sur la commune, assuré, entretenu par nous. Et l'usager va mettre quelques euros de l'heure pour pouvoir naviguer, se rendre à son rendez-vous ou être plus autonome.
Alors, vous êtes une association qui est basée sur le territoire de Gien, on va dire. Mais où est déployée votre activité et quel est le retour en fait, des collectivités sur lesquelles vous êtes déployé?
Alors, on est encore un peu dans l'attente d'un feu vert pour expérimenter la solution. Parce qu'actuellement, elle n'est déployée que sous une forme particulière, c'est-à-dire que là, c'est l'entièreté de la charge qui est prise en compte par des organismes d'insertion ou de formation professionnelle qui veulent pouvoir proposer une solution de mobilité à des jeunes, essentiellement pour se rendre à des formations ou à des stages en entreprise, des jeunes de 16 à 25 ans. En fait, il s'agit d'organismes qui s'appellent les missions locales, qui sont basées dans le Cher. On a deux missions locales qui ont chacune un véhicule, la mission locale d'Aubigny-sur-Nère, la mission locale de Sancerre. Et ces deux véhicules sont donc mis à disposition des jeunes, quasi gratuitement, pour qu'ils puissent donc se former et entrer dans la vie active. On a un troisième véhicule qui roule sur Gien au bénéfice d'une structure qui aide les personnes à domicile. Et donc, ces personnes n'ayant pas le permis de conduire peuvent se déplacer pour se rendre au service des gens qu'elles accompagnent.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, hein, Philippe Bécoulet, c'est un projet expérimental qui, en effet, fait ses preuves aujourd'hui. En fait, quelles sont vos difficultés, on va dire, dans la mise en place, en fait, de votre service? Alors, vous le disiez, il y a déjà des associations ou des collectivités territoriales qui vous font confiance, en effet. Oui. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour développer aujourd'hui votre entreprise?
Alors, le problème essentiel pour qu'une solution comme ça puisse voir le jour et puis que des véhicules soient implantés sur un territoire, c'est la volonté des élus d'expérimenter la solution. Et pour cela, donc nous, on se déplace, on rencontre les maires, on rencontre les présidents de régions, etc. Le problème, essentiellement, c'est de trouver les financements pour que ces petits véhicules puissent être implantés sur un territoire.
Alors peut-être en effet que le forum pour une transition écologique, sociale et solidaire autour de la mobilité durable hein, qu'organise la CRES au Muséum d'Orléans le 9 novembre prochain, eh bien, vous apportera des solutions puisque l'après-midi est consacré en effet à des solutions par rapport à des témoignages en fait que vous aurez pu faire. Il y a un village des solutions, en effet, qui sera proposé, des tables rondes pour sortir du système tout voiture et de l'autosolisme. Hein, c'est ce à quoi est destiné, en effet, votre service MobiDream. Bien sûr, en fait, on pourra également avoir des retours d'expérience de structures de l'ESS ayant travaillé sur comment diminuer leur impact environnemental sur la mobilité ou de collectifs de citoyens et accélérateurs de projets, en fait, qui sont en lien avec, justement, les différents projets comme de l'autopartage, les vélobus, ou bien en effet des solutions d'accès à la mobilité pour des publics qui résident dans des territoires ruraux, périurbains, comme vous le faites à l'association Présence 45 Pays Fort. Alors, ce forum, en effet, il est, destiné à toutes les structures de l'ESS, au public, vraiment, en fait, aussi, qui veut s'intéresser aux enjeux de la mobilité, et particulièrement sur le territoire de la région centre, et tout particulièrement aussi aux côtés des structures de l'ESS et pas avec les multinationales de l'industrie, on va dire. Il y aura d'autres structures invitées. Édouard, peut-être pouvez-vous nous en parler davantage.
Oui. Alors, effectivement, l'enjeu de ce forum, c'est aussi de mettre en relation, les porteurs de solutions comme Présence 45 avec justement les collectivités. Donc, c'est pour ça que ce forum s'adresse effectivement aux acteurs de l'ESS et aux collectivités, ainsi que à tous les collectifs citoyens qui souhaitent porter des projets en lien avec la mobilité durable. Alors le grand public est aussi naturellement bienvenu parce que ce forum se veut être source aussi d'inspiration pour encourager tout à chacun à effectivement abandonner ce qu'on appelle l'autosolisme, le fait de se déplacer seul dans sa voiture. C'est vraiment ça qu'on cherche quelque part à faire disparaître, quoi. Donc des tables rondes, village des solutions, effectivement. Et puis un message fort pour nous qu'on souhaite porter, c'est que justement les acteurs de l'ESS, de fait de leur fonctionnement, sont quelque part une partie de la solution dans le cadre de la transition écologique, avec notamment une gouvernance partagée et avec un encadrement de la lucrativité. Tout ça, ce sont des éléments sur lesquels on souhaite revenir dans le cadre de ce forum.
Alors, comment le gouvernement incite-t-il à faciliter l'émergence de ces nouvelles façons écologiques de se déplacer ? C'est aussi peut-être ce jour-là que la DREAL pourra répondre en fait aux entreprises de l'ESS notamment. Sur les questions de dispositifs. Quels dispositifs existent-ils aujourd'hui pour aider Philippe Bécoulet de l'association Présence 45 Pays Fort à développer en effet cette solution d'accès à la mobilité en territoire rural en fait et périurbain. C'est pas facile pour les entreprises de trouver de l'information à ce niveau-là. Les aides ont été très fléchées sur les usagers, en effet. On sait que le forfait mobilité durable pour les salariés existe, mais il n'y a pas que ça. Et il n'y avait pas que ça dans tous ces milliards, en fait, de la loi d'orientation des mobilités.
Effectivement, la loi LOM, elle s'intéresse, en tout cas en termes de dispositifs financiers qui peuvent être mis en place dans ce cadre-là, cible, prioritairement les collectivités, si bien que, c'est assez stratégique pour Présence 45, effectivement, de s'allier avec des collectivités pour qu'elles-mêmes, quelque part, financent le service. Par contre, pour les acteurs de l'ESS, chercher des solutions et des financements pour elles-mêmes travailler sur l'impact de leur mobilité, si vous êtes un club de sport, etc., comment je fais pour bosser là-dessus ? La lisibilité des dispositifs financiers est vraiment pas simple et du coup faudrait quasiment avoir des ressources humaines au sein des structures de l'ESS pour aller justement chercher ces financements. Donc ça fait partie aussi nous des messages qu'on souhaite faire passer, c'est que il y a besoin d'une part d'améliorer la lisibilité des dispositifs financiers qui sont existants et puis peut-être aussi investir dans l'ingénierie projet dans les structures qu'elles puissent donc avoir les moyens d'aller mobiliser ces dispositifs.
On le rappelle à nos auditeurs, le forum pour une transition écologique, sociale et solidaire autour de la mobilité durable.
Le forum pour une transition écologique, sociale et solidaire, et donc cette deuxième édition est effectivement consacrée à la mobilité durable.
Voilà, diminuer son impact environnemental tout en prenant compte de la question de la justice sociale. Alors, ce sera le 9 novembre au MOB à Orléans. Et puis, voilà, on vous remercie beaucoup d'être venu nous parler, en effet, de votre service MobiDream, Philippe Bécoulet. Et puis, Édouard de Sainte-Maresville, merci beaucoup également de nous éclairer, en fait, pour tout ce qui concerne la transition écologique et énergétique à la CRES.
Merci à vous.
ESS 117, le magazine de l'économie sociale et solidaire en région Centre-Val de Loire. Ce programme vous est proposé par la Crèce Sainte en partenariat avec les radios associatives régionales. Bonjour Marie Huyghe, vous êtes consultante indépendante, spécialiste des questions de mobilité durable en milieu rural et de l'accompagnement au changement des comportements. Vous êtes ingénieure en aménagement du territoire et chercheure en urbanisme. Et vous interviendrez le 9 novembre prochain au MOB à Orléans pour le forum Transition écologique, sociale et solidaire, mobilité durable. Alors expliquez-nous un petit peu en fait justement ce que vous allez proposer, en fait quel type d'intervention vous proposez en fait pour le forum. De la sensibilisation, de l'accompagnement de projets et d'études, de l'analyse. Qu'est-ce que vous proposez ce jour-là au forum, s'il vous plaît ?
Alors, l'idée du forum, en fait, on s'adresse à un public à la fois composé de collectivités et de structures de l'ESS. La journée, c'est vraiment un temps de sensibilisation à la question de la mobilité durable. Donc, on va avoir différents types d'interventions, des interventions plutôt de cadrage de la part de l'ADEME, de l'ADREAL, par exemple. Après, on va avoir deux tables rondes où là, l'idée, c'est d'apercevoir, je dirais, tout ce qui peut être fait de la part des collectivités et des structures de l'ESS en termes de mobilité durable. Donc, on va dresser un panorama des solutions qui peuvent être mises en place, par exemple, du rôle que peuvent jouer les acteurs de l'ESS. Et puis, on aura deux témoignages de structures qui ont avancé sur l'action de la mobilité en mettant en œuvre différents projets.
Alors, vous avez écrit une thèse en 2015 pour l'Université de Tours. Votre thèse, elle s'appelle « Habiter les territoires ruraux, comprendre les dynamiques spatiales et sociales à l'œuvre, évaluer les perspectives d'évolution des pratiques de mobilité des ménages ». Alors, ce qui est intéressant de votre thèse, c'est que vous redéfinissez le rural aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ça, s'il vous plaît ?
Du rural ou du reste de la thèse ?
Alors, le reste de la thèse, on y vient juste après. Vous abordez également dans votre thèse la question de l'évolution du dynamisme démographique et économique des territoires ruraux. Et puis, vous contextualisez en effet cette évolution, puisqu'elle se passe en fait dans un contexte de durcissement annoncé des conditions de mobilité des ménages. Donc ça, c'est la loi mobilité, en effet. Il va falloir tous qu'on fasse quelque chose, en effet, pour faire en sorte que la voiture ne soit plus en fait la seule solution à la mobilité, notamment en milieu rural. Et puis, parlez-nous davantage de votre thèse, en effet, et de cette expérience de recherche-action, en fait, qui met en valeur, en fait, justement, la marge de manœuvre de ces populations rurales, et puis également comment on peut évoluer, en fait, aujourd'hui, dans nos pratiques de mobilité vers des pratiques moins dépendantes de la voiture, et particulièrement en milieu rural.
Alors, l'idée de la thèse, en fait, c'était de s'intéresser effectivement aux territoires ruraux, parce qu'à l'époque, donc quand j'ai commencé, ça fait plus de 10 ans maintenant, en 2012, il y avait très peu de travaux de recherche sur la mobilité en milieu rural, ou en tout cas, on ne s'intéressait pas du tout à la question des usages ou des pratiques. C'est-à-dire que les seules recherches qu'il y avait, c'était sur l'intérêt du transport à la demande ou l'intérêt du transport collectif. Alors que moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était de voir est-ce qu'un ménage lambda en milieu rural, qui utilise majoritairement sa voiture pour tout un tas de raisons, peut réussir à se déplacer un peu différemment. Donc l'idée, c'était à la fois de comprendre pourquoi les ménages se déplacent aujourd'hui en voiture, qui a à la fois des contraintes qui sont dues à l'environnement, c'est-à-dire la façon dont on a aménagé les territoires depuis des dizaines d'années, font qu'aujourd'hui, on est globalement dépendant de la voiture. Et puis, il y a aussi des questions beaucoup plus individuelles, et donc notamment la question des habitudes, qui font que tant que cette habitude nous convient, on ne va pas regarder ce qui existe, quand bien même on pourrait, par exemple, aller au travail à vélo ou en covoiturage, on pourrait aller chercher les enfants à pied, etc. etc. Et donc, effectivement, l'originalité, on va dire, de la thèse, c'est qu'à l'époque, j'avais travaillé avec une vingtaine de ménages que j'avais accompagnés pendant plusieurs mois. J'avais étudié leurs pratiques, enfin leurs pratiques de déplacement, et puis je leur avais proposé des alternatives. Donc c'était soit du report modal, donc on se déplace avec un autre mode, soit une évolution des lieux fréquentés. Donc plutôt que d'aller faire ses courses à Tours, eh ben, on fait ses courses plutôt en proximité, par exemple. Donc moi, je m'intéressais à ce moment-là à la communauté de communes autour d'Azel Rideau. Et puis, troisième alternative possible, c'était une réorganisation des déplacements. Donc on essaye de se déplacer moins, globalement. Donc voilà, ça c'était le côté innovant. Maintenant, effectivement, c'est une thèse que j'ai soutenue il y a très longtemps maintenant. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ces 10 dernières années, la question des pratiques de mobilité et puis le fait qu'on est obligé d'accompagner le changement pour espérer que les gens se déplacent un peu moins en voiture, ça c'est une notion qui a pris vraiment de l'ampleur. On n'en parlait pas du tout il y a 10 ans et aujourd'hui c'est normal, je dirais, pour tous les chargés de mission mobilité d'accompagner le changement de pratique.
Alors, accompagner au changement des pratiques, ça se fait justement avec les individus, ça se fait également avec les collectivités territoriales, les entreprises. Alors, vous êtes un maillon entre le monde de la recherche et le monde de l'urbanisme opérationnel, justement. En fait, comment vous incitez au changement? Vous n'êtes pas forcément chargé de mission justement pour le changement, mais comment en fait et auprès de qui travaillez-vous quand on fait appel à vous? Et surtout, vous le disiez tout à l'heure, il faut accompagner au changement et quelque part, votre recherche, elle met ça en évidence, c'est que on ne peut pas espérer en fait le changement si on ne l'accompagne pas.
Ouais, c'est ça. En fait, il faut bien comprendre que la façon dont on se déplace, elle est liée aux offres qu'on va avoir. Effectivement, si on n'a aucune offre alternative à la voiture, on ne risque pas de se déplacer autrement qu'en voiture. Mais il y a aussi la question de l'information, c'est-à-dire est-ce qu'on est au courant de tout ce qui existe? Il y a la question de la formation, est-ce qu'on a les compétences pour se déplacer autrement? Donc, par exemple, est-ce que je me sens capable ou est-ce que je suis capable de me déplacer à vélo? Et de cohabiter avec les voitures, par exemple. Et puis, il y a la question de l'expérimentation. C'est-à-dire que parfois, on a envie, on est formé, mais on a peur de passer le pas. Et donc, là, l'expérimentation aide à lever un certain nombre de freins. Donc, ça, c'est un peu sur toutes les mesures qui peuvent être mises en place pour accompagner le changement. Maintenant, là où vous avez raison, c'est que le changement, ce n'est pas une question individuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas l'individu tout seul qui va pouvoir faire tout le processus de changement entre j'ai une habitude bien ancrée, j'utilise la voiture et ça me convient, et je me déplace complètement différemment. Voilà. Donc là, il y a deux types d'acteurs, à mon avis, qui ont un rôle essentiel. Il y a les collectivités qui ont le pouvoir de faire évoluer l'environnement. Donc voilà, par exemple. Aménager des pistes cyclables sécurisées, confortables, efficaces, etc. Qui ont la possibilité aussi, par exemple, d'organiser, j'en sais rien moi, des formations vélo à destination des enfants. Ce qu'on appelle le programme Savoir rouler à vélo. Ça, typiquement, les collectivités peuvent travailler pour le mettre en œuvre sur leur territoire. Et puis, l'autre acteur essentiel, c'est l'employeur. Puisqu'aujourd'hui, les déplacements domicile-travail, alors, ne représentent pas la majorité de nos trajets au quotidien. Par contre, c'est des trajets qui sont hyper structurants. C'est-à-dire que quand on choisit un mode de déplacement pour nos déplacements domicile-travail, ben globalement, on va le garder pour tout le reste de la journée. Donc, l'idée, c'est de travailler avec les employeurs pour faire évoluer les modes qu'on va utiliser pour nos déplacements domicile-travail.
Alors aujourd'hui, est-ce qu'on voit justement cette loi mobilité fournir un petit peu des solutions et fournir, comment dire, des changements? Est-ce que la politique incitative, en effet, en matière de mobilité, elle porte ses fruits aujourd'hui, à votre avis? Et justement, ces mesures qui concernent particulièrement les employeurs et leurs salariés, est-ce qu'elles portent leurs fruits aujourd'hui? Est-ce qu'on voit en fait davantage de personnes covoiturer pour aller au travail, prendre leur vélo ou bien, je sais pas, avoir trouvé d'autres solutions comme ça de mobilité durable?
Alors, il y a plein de questions sur la LOM. Oui, ça a été une vraie rupture. Donc, la loi d'orientation des mobilités, elle a été votée fin 2019. Et c'est une vraie rupture dans le monde de la mobilité. En gros, un des principaux changements issus de la LOM, c'est que on dit aux collectivités, vous n'êtes pas les seuls acteurs à devoir traiter de cette question de la mobilité. Et il y a notamment, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a vraiment un encouragement à travailler avec tout type d'acteurs, donc différents échelons territoriaux, régions, départements, communautés de communes, mais aussi avec des acteurs non institutionnels, donc les employeurs que j'évoquais, toutes les structures de l'insertion, les acteurs de l'emploi, etc. Donc ça, c'est un vrai changement de dire on doit tous travailler ensemble pour aboutir à des évolutions en matière de mobilité. Ensuite, est-ce qu'on voit des changements? Oui, si on regarde ce qui se passe du côté du vélo, par exemple. Alors, il y a l'observatoire qui est géré par l'association Vélo et Territoire, qui montre bien qu'en urbain, notamment, il y a une explosion de la pratique du vélo. En périurbain et en rural, il y a une toute petite explosion, c'est-à-dire qu'il y a une évolution qui est très positive, mais globalement, il faut aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est qu'il y a un manque d'infrastructures cyclables sécurisées. Voilà. Et du côté des employeurs, alors il y a des choses qui bougent. Il y a des outils à disposition des employeurs. Donc, il y a notamment le forfait mobilité durable qui permet aux salariés qui vont se déplacer en covoiturage, à vélo, en autopartage, par exemple, d'obtenir, alors c'est jusqu'à 300 euros par an. Voilà, pour les récompenser en fait de leur déplacement, on va dire, vertueux. Sauf que le forfait mobilité durable aujourd'hui, c'est pas obligatoire pour les employeurs. Donc il y a beaucoup d'employeurs qui ne le mettent pas en place. Donc je dirais, il y a des choses qui bougent, mais encore une fois, on peut aller beaucoup plus loin. Et surtout, il faut aller beaucoup plus loin parce que voilà, on connaît tous l'urgence à la fois environnementale et sociale qui est face à nous.
Alors ça pose la question en effet de la justice sociale, de diminuer son impact environnemental. Vous le disiez tout à l'heure, on ne diminue pas, enfin, l'usage du vélo par exemple en fait n'est pas égalitaire entre un milieu urbain et un milieu rural. Comment on peut en effet essayer d'harmoniser davantage en fait ces disparités? Est-ce que vous avez, vous, particulièrement, travaillé là-dessus pendant votre carrière, en fait?
Alors, je ne sais pas si je parlerai d'inégalité. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas les mêmes caractéristiques de déplacement entre urbain et rural. En rural, on a effectivement des distances à parcourir qui sont globalement plus longues. Et ça a expliqué le fait que la voiture est devenue le mode par excellence. Mais il faut quand même garder en tête qu'en rural, il y a 40% des déplacements qui font moins de 5 km. 40%. C'est absolument pas rien. Donc, ces déplacements-là, 5 km, on considère que c'est tout à fait pertinent de les faire à vélo. Donc, bon, je ne dirais pas qu'il y a une si grosse inégalité. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'aujourd'hui, le vélo n'est pas encore considéré comme un mode à part entière. Et il y a encore un manque crucial de politique cyclable de qualité et surtout de politique ambitieuse dans les territoires ruraux.
D'accord, donc il n'y a pas suffisamment de pistes cyclables, il n'y a pas suffisamment d'aménagement dans les territoires ruraux pour faire de
Alors,
plus longues distances à vélo, par exemple.
ouais, alors une politique cyclable, c'est pas que les aménagements, c'est pas que les infras. Il y a aussi toute la question des services. Donc, par exemple, la mise à disposition de vélos, voilà, ou les services de location de vélos moyenne ou longue durée. Il y a toute la question des stationnements vélos. Aujourd'hui, le fait de ne pas pouvoir stationner de manière sécurisée son vélo sur des courtes durées ou des longues durées, c'est un énorme frein, y compris en rural. Donc, il y a cette question-là. Et puis, il y a évidemment la question de la formation au vélo. Aujourd'hui, on a encore une partie de la population qui ne sait pas faire de vélo du tout ou qui ne sait pas se déplacer à vélo. Donc là, je parle beaucoup de vélo parce que c'est vraiment quelque chose qui s'envole dans les territoires, mais ce qui manque aujourd'hui dans encore pas mal de territoires, c'est la volonté de porter une politique ambitieuse, donc une politique globale.
Est-ce que vous avez une initiative locale d'une collectivité, par exemple, ou d'une entreprise, ou même d'une association, d'un collectif d'individus, par exemple, en matière de mobilité durable en milieu rural en particulier? Est-ce qu'il y a une initiative qui pourrait, pas faire exemple, mais quelque part, en fait, relever notre attention en particulier?
Alors, je n'ai pas forcément de territoire absolument exemplaire, mais par exemple, j'ai en tête un territoire avec lequel je suis en train de travailler, la communauté de communes du Val d'Amboise, qui s'est lancée dans l'élaboration d'un plan de mobilité, alors que comme c'est une petite intercommunalité, il n'y a aucun caractère obligatoire. qui se sont lancés aussi dans l'élaboration d'un schéma cyclable. Et donc tout ça, ça va aboutir à des projets autour du vélo, autour du covoiturage, des projets autour de l'animation, de la formation, etc. Donc on est au début, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que voilà, c'est une intercommunalité qui n'était pas obligée de le faire, mais qui s'est dit, voilà, moi j'ai envie d'agir en matière de mobilité. Elle se dote d'une stratégie, et ça, c'est vraiment le point de départ pour après à la fois mener les projets et à la fois aller chercher les financements qui vont lui permettre d'agir. Donc voilà, c'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres en local, mais je pense que c'est de ça dont il faut s'inspirer.
Peut-être avez-vous quelque chose à ajouter pour reparler du forum. Vous le disiez, en fait, ce seront des tables rondes qui seront organisées, des moments de sensibilisation et d'accompagnement, en fait, peut-être à mettre en place des choses pour certaines entreprises qui seront là ou certaines collectivités territoriales qui seront là. Voilà, ces interventions, vous les proposez régulièrement. Alors, vous êtes consultante, en fait, donc on peut faire appel à vous, en fait, de manière, enfin, sans le forum, qu'on va dire. C'est
Tout
ça?
à fait. Oui, j'interviens dans différents territoires, en région ou ailleurs. Ce qu'on peut dire sur le forum, c'est que ce que je disais tout à l'heure, il y a une vraie urgence environnementale et sociale à travailler sur la mobilité et à changer vraiment drastiquement nos matières de nous déplacer. Que chacun peut jouer un rôle, qu'on soit une entreprise, grosse ou petite, qu'on soit une collectivité. C'est normal que certains acteurs débutent et qui sachent pas vraiment comment, voilà, comment prendre le sujet de la mobilité. Et là, l'idée du forum, c'est vraiment de montrer qu'on peut agir et de montrer quels sont les leviers à disposition.
D'accord, merci beaucoup Marie Huyghe. Vous êtes chercheuse, vous êtes consultante, on le rappelle en fait, en mobilité durable. Merci beaucoup en fait de votre intervention. Et puis on se donne rendez-vous le 9 novembre prochain au MOB pour le Forum Transition écologique, sociale et solidaire, mobilité durable. Merci de vous être rendue
Merci à vous.
disponible.
qu'ils sachent ma joie, qu'ils sachent ma fierté, qu'ils sachent ma joie, qu'ils sachent ma fierté. Je dis ma gratitude aux Françaises et aux Français. Je dis ma confiance aux Françaises et aux Français. Je dis ma responsabilité aux Françaises et aux Français. Je dis l'immense joie aux Françaises et aux Français. Je dis ma méthode aux Françaises et aux Français. Je dis ma démarche aux Françaises et aux Français. Qu'ils sachent ma joie, qu'ils sachent ma fierté, qu'ils sachent ma joie, qu'ils sachent ma fierté. Notre cœur, c'est une exigence. Toute notre compétence, c'est une exigence. Toute l'immense joie, c'est une exigence. Qu'ils sachent ma joie, qu'ils sachent ma fierté, qu'ils sachent ma joie, qu'ils sachent ma fierté. Exigence d'une démocratie aux Françaises et aux Français. Exigence européenne aux Françaises et aux Français. Exigence d'une rénovation aux Françaises et aux Français. Exigence du changement aux Françaises et aux Français. Exigence de dialogue aux Françaises et aux Français. Qu'ils sachent ma joie, qu'ils sachent ma fierté, qu'ils sachent ma joie, qu'ils sachent ma fierté. Aux Françaises et aux Français. Aux Françaises et aux Français. Aux Françaises et aux Français.
Comment il est jusqu'à Paris?
Aux Françaises et aux Français.
We'll be right back. de la province, franchement, mais Paris est vraiment une ville de merde. Comme dit Daniel Darc dans la seule bonne chanson qui ait jamais écrite, Paris, Paris. Daniel Darc, pris dans la fascination mortifère de sa propre loose catastrophique, comme un gros lapin imaginaire pris dans la lumière des phares sur le périphérique, loose, loose, loose. Journalistes autour de toi et toutes les groupies qui te léchaient la loose, grosse sangsue sur une plaie malsaine. Burk, 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 B-E-U-R-K, burk, burk, c'est moche, c'est moche, c'est très